bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 31 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Ici aux États-Unis, les sauveteurs continuent de fouiller dans les eaux du Potomac pour repêcher tous les corps des 67 personnes tuées dans la collision au-dessus de Washington. Qui étaient ces passagers du vol American Eagle 5342? Nous en parlons dans cette édition. En RDC, après avoir conquis Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, le M23 et l'armée rwandaise progressent dans la province voisine vers la ville de Bukavu. Et dans notre partie magazine, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, aborde les questions cruciales autour de cette crise dans l'est du pays.
Nous avons constaté ces derniers jours que cette emprise s'était confirmée sur une large partie de la ville de Goma. En ce qui concerne le nombre de morts que nous déplorons, vous allez comprendre qu'avec la volatilité du contexte, il a été très difficile de chiffrer cela.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les sauveteurs continuent de fouiller dans les eaux du Potomac pour repêcher tous les corps des 67 personnes tuées dans la collision au-dessus de Washington d'un avion civil et d'un hélicoptère militaire. Une quarantaine de corps avaient été repêchés hier soir. Les deux boîtes noires de l'avion civil ont été retrouvées. Les derniers développements avec Yakuba Ouedraogo.
Suspendus la nuit dernière, les efforts de récupération des corps ont repris ce vendredi sur la rivière Potomac à Washington, D.C. Les deux boîtes noires du bombardier civil ont été retrouvées hier soir dans les eaux glacées du fleuve. Elles sont analysées par l'Agence américaine de sécurité des transports, qui a dit espérer publier dans les 30 jours un rapport préliminaire sur les causes de la catastrophe. Lors d'un point de presse, sa présidente Jennifer Omendi a affirmé que son agence dispose d'éléments liés au crash, mais demande plus de temps pour les analyser.
Ce n'est pas que nous n'ayons pas d'informations. Nous avons des informations, nous avons des données, nous disposons de quantités substantielles d'informations. Nous devons vérifier les informations, nous devons prendre le temps de nous assurer qu'elles sont exactes.
Sur la chaîne conservatrice Fox News, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que les autorités sont toujours à la recherche de la boîte noire de l'hélicoptère. D'autres facteurs de l'accident, notamment l'altitude de l'hélicoptère et l'utilisation par l'équipage de ses lunettes de vision nocturne, font toujours l'objet d'une enquête, selon Hegseth. Une bande sonore des échanges dans la tour de contrôle permet d'entendre les contrôleurs demander plusieurs fois au pilote de l'hélicoptère s'il avait vu sur l'avion d'American Airlines, puis lui ordonner de passer derrière ce dernier. « J'ai juste vu une boule de feu et puis il a disparu », s'est ensuite exclamé un contrôleur après que la communication avec l'hélicoptère a été coupée. Selon le New York Times, la tour de contrôle de l'aéroport Ronald Reagan était en sous-effectif mercredi soir. Un seul contrôleur au lieu de deux assurait le trafic des avions de ligne et des hélicoptères. La collision des deux appareils est la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis qu'un avion de ligne s'était écrasé peu après son décollage à New York en novembre 2001.
Toujours à Washington D.C., la collision entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne mercredi soir a causé la mort de 67 personnes se trouvant à bord des deux appareils. Pour en savoir plus sur l'identité des passagers du vol American Eagle 5342, suivons les précisions de Dilly Dico.
L'avion transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage et 3 soldats se trouvaient à bord de l'hélicoptère. Il n'y a eu aucun rescapé selon les autorités américaines. Les hommages ont abondé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le monde du patinage a perdu 14 membres, dont 6 du club de patinage de Boston. Parmi eux, 2 athlètes adolescents, leur mère et 2 entraîneurs. Les entraîneurs étaient un couple russe, Yevgenia Shishkova et Vadim Naumov, champions du monde de patinage en 1994. La Russie a confirmé ce vendredi qu'ils étaient bien à bord de l'avion. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Sakharova, a également ajouté que l'ancienne patineuse soviétique reconvertie en entraîneuse aux États-Unis, Inna Volyanskaya, était également parmi les passagers de l'avion. Pékin a confirmé vendredi la disparition de 2 de ses ressortissants dans le crash. Le ministère des Affaires étrangères chinois n'a pas précisé l'identité des 2 victimes. Tim Lilé a identifié son fils Sam Lilé, 28 ans, comme étant le pilote du vol 5342. Il a dit être fier que Sam soit devenu pilote. Ian Epstein faisait partie de l'équipage. Sa famille a indiqué qu'il adorait voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Les écoles publiques du comté de Fairfax en Virginie ont révélé que 3 élèves et 6 parents ont péri dans l'accident. Le club de chasse Fall Plains de Great Bend au Kansas a fait savoir que 7 de ses membres étaient dans l'avion. L'association des apprentis de l'industrie de la plomberie a partagé que 5 de ses membres sont morts dans le crash. Et le porte-parole de la police nationale philippine a déploré la perte du colonel de police, Pergentino Malabed, qui se trouvait également à bord.
Les États-Unis ont tué jeudi en Syrie un chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, Ulas al-Din, qui vient d'annoncer sa dissolution, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Le petit groupe djihadiste Ulas al-Din, branche syrienne d'Al-Qaïda, a annoncé cette semaine sa dissolution dans un communiqué expliquant avoir pris cette décision à la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad. Le groupe est placé sur la liste américaine des organisations terroristes. Un émissaire du président américain Donald Trump s'est rendu au Venezuela vendredi pour exiger du dirigeant Nicolas Maduro qu'il rapatrie des migrants criminels ou qu'il assume les conséquences selon un haut responsable américain. Les otages américains détenus au Venezuela sont non seulement inacceptables, mais ils doivent être libérés immédiatement, a-t-il ajouté. L'administration Trump a annulé la prolongation du statut de protection temporaire dont bénéficient plus de 600 000 Vénézuéliens aux États-Unis et qui les protège d'une expulsion.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En RDC, après avoir conquis Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, le M23 et l'armée rwandaise progressent dans la province voisine vers la ville de Bukavu, où des volontaires ont commencé aujourd'hui à s'enregistrer pour combattre auprès, aux côtés de l'armée congolaise en difficulté. Le point avec Jean-Roger Billon.
L'ONU s'est dite jeudi très inquiète sur la situation dans le sud Kivu, qui reste très volatile, avec des informations crédibles de l'avancée rapide du M23 vers la ville de Bukavu, selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Un sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se tient dans la capitale zimbabwéenne, Harare. Le président congolais Félix Tshisekedi y participe en visioconférence selon la présidence, même pas le président rwandais Paul Kagame. Kigali a déclaré que le Rwanda n'est pas un membre de la SADC selon la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo. La SADC compte des soldats déployés dans l'est de la RDC, tout comme l'ONU avec la MONUSCO et ses 2 forces de maintien de la paix ont payé un lourd tribut cette semaine avec 17 tués. Ce vendredi, des files de volontaires venus s'enregistrer pour aller au front ont commencé à se former dans le stade de Bukavu. La veille, le ministre provincial de l'Intérieur avait appelé les jeunes à s'enrôler.
L'armée ougandaise a annoncé vendredi qu'elle allait renforcer ses défenses dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23 mène une offensive avec l'armée rwandaise. Dans un communiqué, l'armée ougandaise a déclaré qu'elle adoptera une posture défensive avancée jusqu'à ce que la crise soit passée et précise que l'objectif est de dissuader et d'empêcher les nombreux autres groupes armés négatifs opérant dans l'est de la RDC d'exploiter la situation et de protéger et de sécuriser les intérêts de l'Ouganda. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a salué vendredi le départ définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad au cours d'une cérémonie organisée à N'Djamena pour ce retrait historique, marquant aussi la fin de la présence française au Sahel. « Nous ne rompons pas notre relation avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération », a déclaré le chef de l'État devant des militaires tchadiens et devant le corps diplomatique sur la base où flottait le seul drapeau tchadien. Le chef des paramilitaires soudanais, Mohamed Hamdan Daglo, a promis vendredi d'expulser l'armée de Khartoum, reconnaissant ainsi indirectement pour la première fois des revers face à l'armée soudanaise dont la capitale. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé dimanche son quartier général à Khartoum qu'il avait dû abandonner en août 2023 à ses rivaux paramilitaires des forces de soutien rapide. La semaine dernière, les FSR avaient assuré que les déclarations de l'armée annonçant avoir brisé le siège et pris le contrôle de la raffinerie de pétrole de Jaili, la plus grande du pays, au nord de Khartoum. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Niger va bénéficier de l'expertise de l'Algérie pour la protection de ses infrastructures pétrolières, notamment pour le bloc de Kafra dans le cadre d'un contrat de partage de production renouvelé en 2022 entre la compagnie algérienne Sonatrach et le ministère du pétrole nigérien. En décembre dernier, une attaque a visé un segment du pipeline reliant le Niger au Bénin, ont indiqué les autorités, d'où l'initiative de cette protection renforcée. Le gouvernement gabonais a signé un partenariat avec Cibastion pour développer des infrastructures numériques et améliorer la cybersécurité. L'entreprise américaine dotera le Gabon d'un centre de données et va former, en partenariat avec Cisco, plus de 1000 jeunes et femmes aux métiers technologiques. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie Gabon Digital, visant à faire du numérique un levier du développement économique avec le soutien de la Banque mondiale. Au Nigeria, le vice-président Kashim Shettima a inauguré cette semaine une usine d'intrants agrochimiques de 12 millions de dollars à Sagamu, dans l'état d'Ogun. Cette installation est dotée d'une capacité de production annuelle de 30 millions de litres d'herbicides et d'insecticides, pouvant atteindre 50 millions de litres à moyen terme, ce qui permettra de réduire les importations et de contribuer aux programmes gouvernementaux d'intégration locale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
On connaît les oppositions des matchs de barrage de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, le tirage au sort des barrages a réservé un énorme choc avec l'affrontement entre Manchester City de Pep Guardiola, vainqueur en 2023, et le Real Madrid, tenant du titre. Les deux derniers champions d'Europe vont croiser le fer pour la cinquième fois au cours des six dernières saisons. Le Bayern Munich, autre cadeau obligé de passer par les barrages, devrait lui s'en sortir contre le Celtic Glasgow. Le Feyenoord Rotterdam va affronter l'AC Milan. La Juventus Turin va jouer contre le PSV Eindhoven. Un duel franco-français aura bel et bien lieu entre la surprise Brest et le Paris Saint-Germain. Club Brugge, Atalanta Bergame, Sporting Portugal, Borussia Dortmund et Monaco Benfica Lisbonne complètent le tableau des barrages.
Et puis Mehdi Benatia suspendu pour 3 mois.
L'ancien international marocain, directeur du football de l'Olympique de Marseille, a été suspendu 3 mois et le président de Lille, Olivier Létang, 1 mois. Pour leur comportement à la fin du 16e de finale de Coupe de France, mi-janvier, la fin du match entre Marseille et Lille au Vélodrome avait été très tendue autour des bancs de touche, avec l'intervention d'Olivier Létang et l'exclusion de Mehdi Benatia pour des propos véhéments contre le 4e arbitre. Les deux dirigeants avaient déjà été suspendus à titre conservatoire le 23 janvier.
Retour au bercail pour Neymar.
La star brésilienne va retrouver son club formateur de Santos après avoir résilié son contrat avec Al Hilal en Arabie Saoudite. « Je vais signer avec le FC Santos », a dit Neymar dans une vidéo postée hier sur le réseau social X. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, 79 buts en 127 matchs, qui a résilié son contrat lundi avec la formation saoudienne, n'a pas précisé la durée du contrat. « Ta maison t'attend, ton peuple t'attend », a posté dans la foulée l'équipe du sud de Sao Paulo, où le roi Pelé a effectué la quasi-intégralité de sa carrière de 1956 à 1974. Arrivé en août 2023 à Al Hilal en provenance du Paris Saint-Germain, avec un contrat en or à la clé, plus de 100 millions d'euros par an, Neymar n'a finalement disputé que 7 matchs avec le club de Riyad pour un seul but et 3 passes décisives en raison de diverses blessures.
Ici en NBA, les Lakers sont restés intraitables.
Les Los Angeles Lakers sont allés punir Washington, la lanterne rouge de la conférence Est, 134 à 96, malgré l'absence de leur All-Star Anthony Davis blessé, mais avec encore 24 points de l'inusable LeBron James, auteur en outre de 11 passes décisives, dans le match au sommet entre les Memphis Grizzlies, troisième de la conférence Ouest, et les Houston Rockets, deuxième de cette même conférence. Les Grizzlies sont restés maîtres chez eux d'un rien 120 à 119. Les Cleveland Cavaliers, solides leaders de la conférence Est, ont contrôlé les ardeurs des Atlanta Hawks, 137 à 115.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La situation en République démocratique du Congo atteint un niveau de gravité sans précédent avec une escalade de violence qui ravage l'est du pays. Roger Montou a interviewé Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC.
Alors, je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, chef-lieu du territoire du Nord Kivu, il ne s'agit pas d'une présence des rebelles du M23, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises sur un territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et en effet, nous avons constaté ces derniers jours que cette emprise s'était confirmée sur une large partie de la ville de Goma. En ce qui concerne le nombre de morts que nous déplorons, vous allez comprendre qu'avec la volatilité du contexte, il a été très difficile de chiffrer cela. Nous sommes dans le regret de constater quand même que nous parlons, quand il s'agit des morts, de milliers de morts. Certes, l'accès à la presse, l'accès aussi aux autorités a été justement limité et mis à l'épreuve parce que on se retrouvait dans un contexte de combat actif dans beaucoup de zones et de combat dans un contexte urbain, ce qui a rendu le travail extrêmement difficile aussi aux humanitaires, aussi aux soldats de la paix, et donc qui veut dire que maintenant nous sommes peut-être dans un contexte qui va peut-être nous permettre de mieux constater le dégât quand même effroyable de cette attaque du Rwanda sur la République démocratique du Congo et sur les populations civiles congolaises et les casques bleus des Nations Unies et les soldats de la paix de la SADC.
Et donc jusque-là, on n'a pas un certain nombre total de morts.
Nous espérons justement avoir une meilleure visibilité. Vous comprenez qu'il est très difficile aussi d'établir cela quand le contexte qui prévaut est aussi dominé justement par la présence du M23 et des RDF qui essayent justement de se positionner comme une force qui n'aurait pas causé de dégâts. Donc c'est un peu la situation complexe à laquelle nous faisons face. Nous sommes conscients du fait qu'il y a des efforts consentis par les forces armées rwandaises et par le M23 de masquer et de cacher l'envergure de la brutalité avec laquelle ils ont assiégé la ville de Goma.
Alors vous parlez d'une situation difficile. Votre gouvernement considère-t-il cela comme un échec, je dirais, dans la défense d'une ville majeure? Comment expliquez-vous ce revers, Madame la Ministre? Comment cela, beaucoup se posent la question, comment cela a pu arriver, quoi?
C'est une situation, évidemment, que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Ce qui est important, quand même, est de reconnaître que depuis 3 ans, la République démocratique du Congo tire la sonnette d'alarme par rapport au M23 et à la présence des forces armées rwandaises. Nous ne devons pas sous-estimer qu'il y a eu un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leurs propres capacités.
Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Un sommet extraordinaire des dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se tient depuis quelques heures à Harare, au Zimbabwe, pour trouver des solutions durables à l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour analyser les efforts régionaux pour la paix en RDC, Eddie Sango a joint à Kinshasa Jafet Tekila, professeur assistant en résolution des conflits au département de droit international de l'Université de Kinshasa.
Le vrai enjeu de ces sommets, c'est une question de crédibilité, c'est-à-dire que la SADC est en train de jouer sa crédibilité. En d'autres termes, comment organiser une sortie ordonnée de sa mission déployée à l'est du Congo et éviter aussi d'occasionner un vide sécuritaire. Et probablement, la SADC ne va pas immédiatement décider du retrait de sa force, mais ce retrait sera progressif et donc la SADC va probablement demander un cessez-le-feu entre les parties, répondre à la demande de la RDC qui sollicite un renforcement de la mission en termes d'ordre.
Est-ce que c'est pour éviter une confrontation comme l'a menacé le président Paul Kagame à l'endroit du président sud-africain Cyril Ramaphosa en disant que la SADC n'avait pas sa place dans la région et ce n'est même pas une force de maintien de paix?
Cette allégation du président rwandais n'est pas vraie parce que la SADC, sa mission a été entérinée par les conseils de sécurité et a demandé même à la MONUSCO de venir en appui à la mission de la SADC. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faut jouer sur les terrains de la crédibilité en termes d'image de la SADC, sinon ça va impacter les prochaines missions de la SADC sur le terrain. Et pour éviter ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que la SADC a perdu 2 hommes, et donc ça donne l'impression que la mission a échoué. Or, la SADC ne devrait pas accepter que sa mission a échoué. Elle va donner l'impression de montrer que sa mission n'a pas échoué en acceptant la demande du gouvernement congolais de renforcer la mission en termes d'hommes, mais en même temps en mettant parallèlement à l'œuvre un plan de sortie qui va venir après.
Plan de sortie, ça veut dire que la SADC va se retirer, mais qu'est-ce qui justifierait justement cette sortie, ces retraits?
Cette sortie est justifiée d'abord par, il faut le dire, l'échec de la mission, parce que la mission est déployée depuis le 15 décembre 2020. Mais entre le 15 décembre 2023 jusqu'en 2025 à la prise de Goma, on n'a pas senti la force de frappe de la SAMI RDC. Et donc, la mission n'a pas réussi dans son objectif de soutenir les RDC dans ses efforts pour établir une paix et une stabilité durable dans la région, dans le pays, en vue de créer un environnement favorable au développement durable. Et cet échec épuisant, on peut refuser de le voir, mais en réalité, la SAMI RDC a échoué comme la précédente mission de la CEAC. Et donc, il faudrait trouver un autre mécanisme, et la SADC ne va pas sortir comme ça, il faut être politiquement correct pour s'en aller.
Et la SADC semble aller avec le processus de paix de Luanda, qui semble aujourd'hui un peu opposé à celui de Nairobi avec l'EAC. Est-ce que c'est pour éviter la confrontation? Qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui suivent?
Les ressources diplomatiques ont démontré leurs limites et on ne peut plus espérer que cette crise sera résolue au niveau des organisations régionales. Cette crise ne sera résolue ni au niveau de l'EAC ni au niveau de la SADC. Cette crise sera résolue au niveau des Nations Unies, notamment avec l'implication des États puissants comme les États-Unis d'Amérique.
Jafet Tekila, professeur assistant en résolution des conflits au département de droit international de l'Université de Kinshasa. Au Bénin, Olivier Boko, ancien proche du président béninois Patrice Talon et Oswald Umeke, ex-ministre des Sports, ont été condamnés à 20 ans de prison pour une tentative présumée de coup d'État, corruption et faux certificat. Leur procès s'est déroulé dans sans avocat, ceux-ci s'étant retirés en contestation de la composition du tribunal. Pour comprendre l'impact de ce procès, Jean-Roger Billon a joint à Cotonou l'analyste politique béninois Vincent Agué.
Ce n'est pas la première fois que des accusés au Bénin, devant la criette surtout, sont condamnés en l'absence de leurs avocats. Les cas précédents et emblématiques d'ailleurs étaient les cas des opposants Réki Amadougou et Joël Aïvo. Dans ces deux cas également, les avocats n'avaient pas pu plaider parce qu'ils avaient relevé des irrégularités dans les procédures et s'étaient retirés. C'est dire que c'est un scénario qui se répète devant la criette et cela amène en fait à interroger la crédibilité de cette juridiction qui a été créée par le gouvernement de Patrice Talon.
Alors, beaucoup d'observateurs inscrivent ce procès dans une logique de capture de l'État par l'exécutif actuel. Cette condamnation peut-elle avoir un impact sur l'image du gouvernement ou l'ordre public au Bénin?
Cela va de soi, parce que la question de fond qui a été jugée à l'occasion de ce procès, c'est l'intention de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Olivier Bocor ne s'est jamais exprimé publiquement pour dire qu'il voulait briguer la magistrature suprême, mais des actes posés ça et là autour de lui tendaient à faire croire qu'il nourrit cette ambition présidentielle. Et donc, au fond, même si entre-temps, la justice avait raison de dire que ces deux hommes ont tenté de faire un coup d'État, c'est que la question de fond, la question centrale, c'est la question de la succession de Patrice Talon, qui, après deux mandats de 5 ans chacun, donc 10 ans de pouvoir, n'a pas, à ce jour, un dauphin désigné. Et il semble qu'il ait interdit le débat sur sa succession au sein des deux importants partis politiques qui le soutiennent. Et donc, au fond, c'est de se demander, est-ce que le régime qui est au pouvoir aujourd'hui au Bénin s'accommode des initiatives qui tendent à organiser son départ du pouvoir, son départ à la fin de ses deux mandats constitutionnels? C'est une question.
Quel peut être l'effet de cette affaire sur l'opposition en général et sur la stabilité politique interne du Bénin?
On peut craindre un peu pour la stabilité, surtout quand on voit le statut et le rang de la personne centrale de ce procès. Je veux parler de Olivier Bocor. C'est un très proche, un intime du président Patrice Talon. Et donc, comme l'a peut-être écrit quelqu'un sur les réseaux sociaux, si on brûle le bois vert, qu'adviendra-t-il d'un bois sec? Ça, c'est un passage un peu biblique. Un peu pour dire, si on arrive à condamner à 20 ans de prison un intime du président, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait au cas où des opposants seraient identifiés demain comme voulant tenter un coup d'État ou initiant des choses pour déstabiliser le pays? Donc, on peut craindre pour la stabilité du Bénin, surtout dans la transition vers les élections générales de 2026. Élections auxquelles le président Patrice Talon ne devrait pas être candidat si on doit respecter les dispositions de la Constitution.
Vincent Agué, analyste politique. Le décret du président Donald Trump visant à mettre fin au droit du sol aux États-Unis a déclenché un débat juridique et politique sur le pouvoir exécutif et le 14e amendement qui garantit la citoyenneté à toute personne née sur le sol américain. Ce principe est au cœur des droits civiques pour sa ratification en 1868. Reportage d'Aline Barros, le récit est de Thierry Kaoré.
Dans la Constitution américaine, rédigée à la fin du XVIIIe siècle, le Congrès est en charge d'une grande partie des décisions concernant l'immigration et la citoyenneté. Mais le président Donald Trump a signé un décret mettant fin à la citoyenneté de naissance aux États-Unis.
Nous sommes le seul pays au monde à faire cela avec le droit à la citoyenneté de naissance, comme vous le savez. Et c'est absolument ridicule. Mais vous savez, nous verrons. Nous pensons que nous avons de très bonnes raisons et certaines personnes veulent le faire depuis des décennies.
Les détracteurs du décret de M. Trump affirment que le 14e amendement est une pierre angulaire des droits civiques et qu'il ne peut être retiré par un président américain. Toya Jung est avocate spécialisée dans l'immigration.
À l'origine, il s'agissait de faire en sorte que les esclaves noirs puissent obtenir la citoyenneté, ce qui est inscrit dans l'affaire Dred Scott. Les amendements constitutionnels et les droits constitutionnels ne peuvent pas être supprimés par un président. Ils ne peuvent être retirés que par le Congrès et le décret est donc illégal.
Toutefois, les partisans du décret affirment qu'il est nécessaire de rétablir l'équité dans le système d'immigration. Écoutons le député républicain du Texas, Brian Babin.
Le président Trump a clairement indiqué que le rétablissement de l'équité dans notre système d'immigration et la défense de l'intention réelle du 14e amendement sont au cœur de sa vision de rendre à l'Amérique sa grandeur. Son décret historique visant à mettre fin à la citoyenneté de naissance marque une étape cruciale.
Le décret est confronté à d'importants défis juridiques et de nombreuses actions en justice déjà en cours. Les procureurs généraux démocrates de 22 États ont déposé une plainte arguant que le décret viole le 14e amendement. De nouveau, Tuyet Duyang, avocate spécialisée dans l'immigration.
La Cour suprême l'a réaffirmé dans une affaire où la citoyenneté d'un grand nombre d'immigrants chinois était contestée, et la Cour a réaffirmé que le 14e amendement s'appliquait à ces immigrants chinois et ils ont pu obtenir la citoyenneté.
Un juge fédéral de Seattle a temporairement empêché l'application du décret sur la citoyenneté de naissance. Si l'affaire est portée devant la Cour suprême, l'issue pourrait façonner la conception de la citoyenneté dans le pays. Si le décret est autorisé à aller de l'avant, l'impact le plus immédiat concernera les nouveaux-nés et les personnes qui n'ont pas encore reçu d'acte de naissance et de numéro de sécurité sociale.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Lionel Unanila Gahima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.